rencontre autour de l'éducation aux médias et de la création sonore dans le cadre de l'édition 2024 du festival À hauteur d'enfant. Un magazine proposé par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie. La quatrième édition du festival À hauteur d'enfant s'est tenue du 28 novembre au 1er décembre dernier à Montpellier. Pour la seconde année consécutive, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie participait à cet événement organisé par France Bleu Hérault, dont l'objectif est de permettre au jeune public de découvrir les différentes facettes de la création sonore. Lors de ce magazine, nous irons à la rencontre de quelques-uns des intervenants ayant participé à ce festival. Mais pour débuter, nous vous proposons de parler d'éducation aux médias, alors que viennent de paraître les résultats d'une grande enquête nationale autour de l'implication des radios associatives dans ce domaine.
Redouane Esbanti, je suis le coordinateur de Radio Alliance Plus à Nîmes. Et puis aussi au niveau national, je préside la Fédération française des radios chrétiennes. Et puis aussi, je suis donc dans la Confédération nationale des radios associatives.
En janvier 2024, la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres ont lancé une grande enquête nationale autour des actions menées par les radios associatives dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. Les résultats de cette enquête ont été dévoilés dernièrement. Que faut-il en retenir ?
Alors, avant de parler des chiffres, je voudrais rappeler que l'éducation aux médias et à l'information, c'est une démarche essentielle pour permettre à chacun, et en particulier aux jeunes, de comprendre le fonctionnement des médias et des informations qui circulent, d'en analyser le contenu de manière critique, d'utiliser les outils numériques de façon responsable et éclairée. Et cela, c'est à partir de toute une éducation. On apprend à lire et à écrire, et il faut aussi apprendre à décrypter l'information. Et en ce qui concerne le chiffre, c'est que maintenant, on disait que les radios associatives intervenaient dans le rôle de l'éducation aux médias et à l'information, on s'est dit, mais d'accord, mais il faut le prouver, il faut le démontrer. Et donc cette étude a permis de mener toute une enquête auprès de 178 radios qui ont répondu, hein, 178 radios qui ont répondu à cette enquête et qui donnent quelques chiffres assez révélateurs de l'action des radios associatives dans l'éducation aux médias au niveau local. Il y a à peu près, chaque année, grosso modo, 50 000 bénéficiaires de l'action des radios associatives. Il y a environ 2500 établissements d'intervention et on a mesuré à peu près à 75 000 heures dédiées à l'éducation aux médias et à l'information. Et quand on dit éducation aux médias, ce n'est pas seulement les scolaires qui sont concernés par cette action. Il y a les scolaires, bien évidemment, que ce soit le primaire, le public ou privé, que ce soit les collèges, les lycées, mais aussi les centres sociaux, les MJC, personnes en situation de handicap, en EHPAD, les centres pénitentiaires. Vous voyez, donc, le champ est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et l'action des radios est justement dans cette diversité d'actions.
Aujourd'hui, il y a un certain effet de mode autour de l'éducation aux médias et beaucoup de professionnels et de structures proposent des actions. Qu'est-ce qui distingue les radios associatives parmi cette multitude d'intervenants ?
Bien, parce que pour nous, ce n'est pas un business. Vous dites qu'il y a beaucoup d'intervenants parce qu'en fait, il y a une manne qui a surgi parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec les fake news, avec la manière de manipulation des esprits, que les réseaux sociaux ne se maîtrisent plus. C'est-à-dire les canaux habituels de transmission de l'information sont de plus en plus délaissés. La télévision qui était au cœur de l'information aujourd'hui est très peu vue par les jeunes et même les moins jeunes. On préfère les réseaux sociaux, on préfère ce qu'on appelle les réseaux alternatifs. Hein. Alors, la spécificité de nos radios, c'est que nous menons une action sur du long terme. C'est depuis 1981 que nous faisons ça. Alors les radios, selon leur capacité, ou elles arrivent à passer des conventions avec des collèges, des lycées ou des centres sociaux, ou elle le fait parce que ça fait partie de son engagement. C'est-à-dire qu'elle met au service des différentes structures son savoir-faire. Donc l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne le média, analyser les contenus qui sont proposés, c'est produire des contenus médiatiques et utiliser les outils numérique et aussi nos antennes. Alors, c'est là où on a une force de frappe, c'est que tout ce travail qui est fait avec ces différents publics, nous le diffusons. Nos antennes sont là pour qu'on puisse relayer, quand on a travaillé sur une émission, sur un documentaire, sur un spot avec les jeunes ou les moins jeunes, on le diffuse, on le met à disposition de nos auditeurs, ce qui n'est pas le cas partout.
À l'heure où se déroule notre entretien, nous nous trouvons au cœur du festival À hauteur d'enfant, à Montpellier, un festival autour du son à destination des plus jeunes. Cette année encore, les radios associatives sont présentes et proposent différents ateliers. En quoi cette présence est-elle importante? Est-ce une forme de reconnaissance?
Oui, c'est une reconnaissance d'un savoir-faire, de capacités que nous avons au niveau pédagogique, parce qu'il ne suffit pas de savoir maîtriser les médias, c'est aussi avoir une pratique, et la pratique radiophonique de nos bénévoles. Mais quand on dit bénévoles, ce n'est pas des amateurs, c'est aussi devenu maintenant aujourd'hui des gens, des professionnels de la pédagogie. On a beaucoup aussi de professeurs, d'enseignants qui sont à la retraite et qui participent à cette action précise. Pourquoi c'est important? Parce que c'est vraiment un enjeu pour notre démocratie aujourd'hui que le public qui utilise les réseaux sociaux, qui reçoit ses informations via les réseaux sociaux, puisse comprendre le rôle, les enjeux et l'influence sur la société. Décoder les messages médiatiques qu'ils reçoivent. C'est d'essayer d'apprendre à lire, à interpréter les images, à interpréter les mots, les sons véhiculés par les médias. Il y a par exemple une chaîne de télévision d'information continue, Euronews pour ne pas la nommer, a une émission qui s'appelle No Comment. C'est-à-dire on présente des images, mais c'est comme si c'était à l'état brut. Non, c'est pas à l'état brut. On a choisi des images et ces images ont un contenu. Donc, il y a une orientation d'analyse. Donc, il faut arriver à se dire, une image n'est pas innocente. L'image qu'on nous présente n'est pas innocente. Donc, il faut décrypter, il faut analyser, il faut la comprendre. Et puis aussi, ce qui est très important, ça nous tient à cœur, c'est de développer l'esprit critique. C'est encourager le questionnement face aux informations reçues et la recherche de la véracité des faits. Donc, il faut décrypter cette information que l'on reçoit. C'est parce qu'on a reçu sur son smartphone, par tel ou tel réseau social, une information qu'il faut la relayer automatiquement. Il faut d'abord s'informer. Et pour cela, donc, c'est rendre attentifs les jeunes dans leur vie, dans les réseaux sociaux, à décrypter cela. Parce qu'ils peuvent se mettre aussi en danger. Et cela, ils n'en sont pas toujours conscients. Et je crois que c'est notre rôle. Il faut savoir maîtriser l'outil numérique. Oui, les réseaux sociaux peuvent à la fois être une formidable plateforme d'information, de transmission de la culture, mais aussi une impasse terrible intellectuellement, psychologiquement.
Aujourd'hui, l'éducation aux médias déborde de son cadre traditionnel pour s'intéresser aux réseaux sociaux, largement utilisés par les jeunes. Durant le festival, Radio Aviva, une radio associative montpelliéraine, a proposé un atelier sur ce thème.
Johan Lopez, je suis animateur pour Radio Aviva.
Sur cette édition du festival À hauteur d'enfant, Radio Aviva a proposé un atelier autour des médias et des réseaux sociaux. Pourriez-vous nous parler un petit peu de ce qui est abordé durant cet atelier ?
Bien sûr, donc oui, on a animé trois ateliers donc en partenariat avec Lara. Et en fait, il était question d'EMI, donc c'est-à-dire d'éducation aux médias et à l'information et à la manière donc de réagir à ces derniers. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est moi qui ai animé cet atelier et j'avais donc plusieurs volontés, c'est-à-dire de parler des différents médias qui existaient, les expliquer leur rôle, expliquer aussi le rôle du métier de journaliste. Et aussi mettre un point d'intérêt en fait sur le côté fake news en fait avec les mauvaises informations et essayer de faire comprendre aux jeunes qui avaient quand même entre 7 et 11 ans quelle importance ça pouvait avoir en fait de partager une mauvaise information, une fake news, ou alors tout simplement en fait d'en lire et en fait expliquer les conséquences que ça pourrait avoir si jamais ils étaient amenés à être influencés par ce genre d'informations.
Et justement donc à l'âge qu'avaient les enfants qui ont participé à ces ateliers, ils commencent à avoir une grande curiosité pour les réseaux sociaux, voire même peut-être certains ont déjà des comptes. En quoi ce type d'atelier est important ?
C'est vrai que c'est une bonne question, parce que moi, un des groupes que j'ai, avec qui j'ai fait un atelier, sur 11 élèves, ils avaient environ 9 ans, il y en avait 7 qui avaient donc déjà des comptes sur plusieurs réseaux sociaux. Donc c'est très très important en fait de parler de ça avec eux, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas forcément, je veux dire, parce que voilà, ils s'en servent plus pour regarder des contenus. Ils publient pas forcément, mais ils voient des choses. Et ils sont influencés par ces dernières. Et parfois, ces choses-là peuvent être déjà soit fausses, ou alors juste très très mal orientées, en fait, pourraient les empêcher d'avoir un bon avis critique et un bon esprit critique, et en fait, tout simplement rester indépendant, quoi.
Et qu'est-ce que vous leur avez donné comme piste, comme outil, pour les aider à s'y retrouver, à décrypter et à faire finalement la part entre le vrai et le faux sur ces réseaux sociaux ?
Tout simplement de s'informer, en fait, de si jamais ils rencontrent une information qu'ils trouvent un petit peu douteuse ou ils ont des doutes, etc. Juste savoir s'informer, savoir recouper l'information, savoir se renseigner, savoir toujours avoir ce petit avis critique qui peut tout changer, en fait, et ce côté où en fait on réfléchit quoi qu'il arrive, parce qu'on est les réseaux sociaux, ça reste dangereux. Donc selon les publications qu'on peut voir, ça peut vraiment nous influencer dans le mauvais sens du terme. Donc faire très attention. Donc tout simplement d'un seul mot, se renseigner et être curieux.
À l'année, Radio Aviva propose de nombreuses actions d'éducation aux médias. Pourriez-vous nous en parler un peu et nous dire en quoi il est fondamental de mener ce type d'action ?
C'est vrai qu'on organise beaucoup d'ateliers pédagogiques. On organise, par exemple, on a organisé un atelier sur les inondations et le risque que ça pouvait avoir dans les écoles et chez les jeunes, pour qu'ils comprennent un petit peu les enjeux. Et en fait, c'est très important, parce que au final, nous, on est formés à... Enfin, une radio, c'est fait pour partager des informations, bien sûr, mais c'est aussi pour sensibiliser. Et je pense que c'est ce qu'on fait quand on fait des émissions comme le plateau, l'atelier pédagogique qu'on a fait aujourd'hui en partenariat avec Lara. C'est... la sensibilisation, tout simplement, c'est pour que les jeunes puissent comprendre qu'en fait, il y a des dangers dans ce monde, qu'il faut savoir réagir, et que nous, justement, nous avons travaillé ce sujet, nous avons des renseignements, nous savons comment réagir, on est là pour les aider. On n'a pas la science infuse, mais on est là pour les aider.
L'éducation aux médias des enfants passe aussi par le choix des contenus que les parents souhaitent leur proposer. L'essor du podcast Jeune Public offre aujourd'hui aux enfants des contenus de qualité permettant d'éveiller leur curiosité et leur imaginaire loin des écrans. Nous avons rencontré lors du festival une réalisatrice impliquée dans ce type de production.
Je m'appelle Anna Bui, je suis réalisatrice radio et surtout podcast maintenant.
Est-ce que vous pourriez nous présenter l'atelier que vous proposez cette année sur le festival À Hauteur d'Enfant ?
Cette année sur le festival, je propose un atelier qui s'appelle Fabrique ton Oli. Et ça consiste à donc réunir une dizaine d'enfants de 6 à 10 ans. Et ils s'emparent d'un tas d'objets que je leur ai ramenés pour bruiter un holi. Donc moi, j'ai fait un petit extrait de ce podcast avec juste la voix nue. Donc ils entendent un petit bout d'histoire pour enfants. Et avec tous les objets que je leur mets à disposition, ils doivent le bruiter. Il y en a même qui décident de faire des ambiances, donc de refabriquer une nuit. D'autres qui veulent faire les portes qui s'ouvrent, des bouts de nuages qu'on arrache. Voilà, c'est des bruitages plus ou moins concrets que je leur demande de réaliser. Et ce qui est assez chouette, c'est que tout vient d'eux. Donc ils écoutent l'histoire et ils choisissent ce qu'ils ont envie de bruiter.
Ce travail avec les enfants autour de la fiction sonore, donc dans le cadre du festival, est donc un prolongement de vos activités habituelles, puisque donc vous travaillez notamment sur la série de podcasts Oli, produite par Radio France, dont vous venez de nous parler. Pourquoi avez-vous choisi de travailler à destination du jeune public ?
Moi, c'est une opportunité que j'ai eue de travailler sur les Oli. Je ne faisais pas de jeunesse avant. Et je pense que j'y ai vraiment pris goût. Il y a aussi le format bestiole. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un festival de radio pour enfants à Montpellier, où j'habite maintenant, j'ai vraiment eu envie d'aller faire rencontrer mon travail et ce format avec son public, à savoir ses enfants qui viennent à l'atelier. Je pense que faire du son pour les enfants, c'est une chose, mais aller voir comment eux le reçoivent et comment eux le feraient à ma place à l'occasion de cet atelier, c'est encore autre chose, et moi, ça m'apporte beaucoup.
Alors justement, quel est selon vous l'apport de ces fictions sonores, et même au-delà de toute la production actuelle en podcast jeunesse, quel est l'apport pour les enfants?
Bah, après, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec tous les écrans qu'il y a partout, c'est quand même autre chose de leur proposer une fiction sonore. Ça développe l'imagination, puisque c'est des films qui doivent se faire tout seuls, donc c'est stimulant pour eux. Et je pense que c'est un autre type de concentration qui est chouette de, voilà, de proposer à l'heure où il y a des dessins animés qui vont super vite, qui balancent plein plein d'images avec beaucoup beaucoup de couleurs et beaucoup de bruit très très fort. Quand je leur fais écouter là, juste avant qu'eux se mettent à bruiter, on écoute une fiction sonore quand même pour qu'ils prennent la mesure du travail qu'il y a à faire. Et ouais, je trouve qu'ils sont dans un régime d'attention qui change. Ça leur apprend, en tout cas, la fiction sonore, mais aussi le fait de s'en emparer, de faire un atelier, ça les oblige à mettre un petit peu des mots sur ce qu'ils entendent et sur ce qu'ils ressentent. Et ouais, par exemple, là, ils devaient mettre en son une lumière. Et c'est super intéressant avant de la mettre en son, ils essayent d'en parler, ils essayent d'exprimer comment ça sonne pour eux. Et voilà, pour eux, c'était quand même une évidence que cette lumière qui est évoquée dans la fiction, elle doit être mise en son. Donc oui, je pense que ça leur ouvre plein de portes.
Sur le festival à hauteur d'enfant, de nombreux ateliers ont été proposés aux jeunes participants afin de leur permettre de découvrir la création audio et de participer à la réalisation de petites productions. Radio Pays d'Hérault, radio associative héraultaise, a ainsi proposé à des scolaires de réaliser quelques jingles.
Donc Maëva de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, et je suis chargée de projet. Donc je m'occupe de développer des projets radio avec des partenaires, établissements scolaires, plein d'institutions différentes.
Alors Maëva, est-ce que vous pourriez nous présenter l'atelier que vous venez juste d'animer sur le festival à hauteur d'enfant?
Alors c'est un atelier express de création de jingles en 45 minutes. Donc l'idée, c'est de recevoir des groupes d'enfants, de leur proposer de sélectionner une ambiance, une thématique, et ensuite de partir sur un petit travail d'écriture rapide autour d'un dialogue, d'un échange qui donnera fin à un jingle. Donc un jingle, ça peut être pour la radio, Radio Pays d'Hérault, ou le festival où on se trouve, à hauteur d'enfants, ou pourquoi pas l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives. On verra si on arrive à créer quelque chose de sympa.
Alors notez tout ce que vous voulez dire, toutes les phrases, et après vous pouvez vous les répartir, d'accord? Et pensez au bruitage que vous voulez mettre.
Quelles ont été les réactions des enfants en découvrant les possibilités créatives de l'audio, alors que leur univers semble plutôt orienté en direction de l'image?
Alors moi je trouve qu'ils sont de suite mis au travail. Alors là l'idée c'est vraiment de faire un travail de groupe, donc se mettre ensemble sur quelque chose de créatif, inventer une histoire. Et ils n'ont pas du tout de problème à se lancer dedans. Là bon c'est rapide, hein, c'est 45 minutes, c'est sûr que le format permet de ne pas s'ennuyer. Mais aucun besoin là de vidéos, d'images. Là on y va, on est autour d'une table, un stylo, un papier, on réfléchit ensemble à un petit dialogue, il y a un objectif à la fin, on enregistre, c'est plutôt dynamique et ça permet vraiment de se retrouver, de créer ensemble, d'enregistrer, de voilà, faire un objet fini en quelques minutes. Donc je pense que c'est plutôt réussi pour le groupe qui est venu là, ils ont plutôt bien réussi.
À l'année, Radio Pays d'Hérault propose de nombreuses actions d'éducation aux médias, notamment en milieu scolaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu et nous dire ce que cela apporte aux enfants?
Finalement, c'est un peu le même principe, hein. Donc nous, on intervient soit sur des projets ponctuels, soit toute l'année sur des clubs radio, donc que ce soit au collège ou au lycée. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver ensemble pour développer des thématiques. Donc donner son avis, faire de la recherche d'informations, s'exprimer. Et toujours cette idée de créer quelque chose en commun, avoir un objectif de groupe. Et donc soit, ce qui rend soit des émissions, soit des chroniques, soit des créations sonores. Voilà. Mais vraiment pour moi, le principal, c'est créer quelque chose en groupe, s'exprimer, donner son avis, son point de vue, chercher de l'information et la restituer. Voilà, c'est vraiment les objectifs principaux sur ce type d'atelier.
Radio Pays d'Hérault est une radio associative. Est-ce que l'éducation aux médias est une mission importante pour votre radio?
Ah oui, c'est primordial, surtout ces dernières années. On a la chance d'avoir beaucoup d'établissements scolaires qui nous sollicitent et qui nous proposent de venir réaliser des projets au sein des établissements. Donc c'est vraiment une partie très importante de notre activité et on ne prend pas ça à la rigolade. On essaye de toujours proposer des choses nouvelles, des projets qui s'adaptent vraiment aux classes, aux élèves et aux envies des professeurs.
Descendez sur Terre pour venir visiter le festival à hauteur d'enfant.
Des jeux, des ateliers et des jingles autour du son et de la radio.
Vous pouvez venir en famille, entre amis, ça sera toujours ouvert à tous.
Du 28 novembre au 1er décembre 2024, dépêchez-vous, ça va bientôt fermer. Et en plus, c'est gratuit. Bon, on vous laisse, nous on y va.
Nous ne pouvons pas parler de création sonore sans faire référence à la création musicale. Pour terminer ce magazine, nous découvrons l'atelier Ether Music, où un musicien proposait aux enfants de découvrir un instrument électronique aussi mythique que mystérieux et de manipuler des effets sonores.
Je m'appelle Jean-François Oliver et je suis musicien un peu touche-à-tout. À la base, je suis instrumentiste, je suis vibraphoniste. Je joue des claviers aussi, des synthétiseurs, je joue du luth arabe et je compose des musiques pour plein de contextes différents, que ce soit le spectacle vivant ou la scène purement musicale, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous faire une présentation de l'atelier que vous proposez cette année sur le festival À Hauteur d'Enfant ?
L'atelier qui s'appelle Ether Music est en fait présenté comme un petit orchestre électromagnétique, c'est-à-dire que un groupe de 5 à 7 enfants vont être conduits à jouer des pièces musicales, voilà, dont le générateur principal est un térémine, voilà, mais ce térémine passe dans plusieurs boîtes d'effets qui vont chacun manipuler et pour ainsi créer des sons et des pièces un peu inouïes, expérimentales.
Quelle était la réaction des enfants justement en découvrant ce térémine, donc un instrument qu'a priori ils ne connaissaient pas ?
Alors c'est assez rigolo parce qu'au début, alors je montre une vidéo de quelqu'un qui joue du térémine. Donc les premiers c'était à qui j'ai montré des vidéos, c'était une vidéo de Clara Rockmore, donc qui est un peu l'interprète légendaire qui a fait ses lettres de noblesse au térémine. Donc à l'époque où est sorti l'appareil, hein, qui a très bien connu son créateur, Léon térémine. Et c'était une violoniste à la base, donc qui s'est approprié cet instrument et qui a développé un vrai jeu autour de cet instrument. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'en la voyant, il y avait des enfants qui disaient, mais l'instrument c'est son corps, mais non, elle chante, mais en fait on voit pas sa bouche s'ouvrir. Et en fait ils étaient très perturbés par ce truc qui est qu'on ne touche pas à la chose, et certains n'avaient presque pas remarqué l'espèce de boîte noire devant elle avec deux espèces d'antennes qui sortaient.
Alors justement, une boîte noire avec deux antennes, comment est-ce qu'on joue du térémine ?
Alors, donc, le térémine, on contrôle deux paramètres, hein, la hauteur du son et son volume. Donc, avec la main droite, plus on s'approche de l'antenne, plus le son va être aigu. Et avec la main gauche, au contraire, plus on s'approche de l'antenne, moins le son va être fort. Je m'éloigne ou je me rapproche de l'antenne de la hauteur et je l'ai réglé de telle manière que quand je suis assez loin, il n'y a plus de son. Donc, en fait, tout simplement, je pars de rien. Ça monte et ça descend. Après, je peux vibrer, ce que je leur apprends à faire sur le graphique, c'est très rigolo. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je fais passer le signal du térémine dans une pédale qui peut capturer les sons. Plusieurs sons.
Térémine donc relié à des différentes boîtes d'effets. Qu'ont été amenés à faire les enfants ce matin ?
Alors, ils ont été amenés à découvrir l'instrument et pour s'en emparer, je leur fais jouer une petite partition, en fait. Et ces petites partitions, je vais en faire pour toutes les boîtes qui sont là. Mais la partition, elle est très simple, c'est graphique. Donc c'est dans un séquenceur, une timeline qui défile avec des courbes qui montent ou qui descendent. Donc en fait, ils vont suivre. Donc je fais jouer que sur la hauteur parce que les deux mains avec le volume, c'est assez complexe. Et à partir de ça, donc ils suivent une espèce de partition. Donc moi, j'ai écrit une pièce graphique qui dure une minute pour petit orchestre électromagnétique que tous les enfants vont jouer en changeant de poste et ça donne jamais la même chose.
Rencontre autour de l'éducation aux médias et de la création sonore dans le cadre de l'édition 2024 du festival À hauteur d'enfant. Un magazine proposé par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie.